Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, on décortique ce matin le concept d'empathie. Est-ce qu'on souffre d'empathie ou est-ce vraiment une grande qualité d'en avoir à revendre? On fait le point avec Isabelle Payot, psychologue clinicienne, et Yvan Monnaine, consultant en entreprise. Alors Isabelle, à partir de quel âge, on va dire, on développerait de l'empathie, si d'ailleurs tout le monde en a? Est-ce que c'est vrai, ça existe des gens qui en seraient complètement dépourvus?
Alors, il y en a qui en sont dépourvus totalement, mais là, on est dans la maladie psychiatrique, donc c'est vraiment des cas
rares.
Oui, qui sont rares, heureusement. Sinon, on en a tous, alors plus ou moins. Et puis, en fait, avant un an, l'enfant, lui, il ne sait pas que ses émotions sont ses émotions. Enfin, ça se mélange avec son entourage, donc on ne se rend pas compte tellement. Mais on a réalisé, là, il y a eu une étude de fait en Allemagne, là, où on s'est rendu compte que les enfants, déjà entre 10 et 14 mois, étaient capables d'empathie, de ressentir la peine de l'autre ou la difficulté, etc. Et même consoler ou bien d'aider, de devenir très altruiste. Et donc, avant, on pensait que c'était pas avant 3 ans qu'un enfant pouvait se mettre à la place de l'autre, comme ça, ressentir. Mais maintenant, on se rend compte que c'est bien plus tôt que ça. On observe mieux les bébés. On se rend compte qu'autour de 10 mois, ça démarre. Et effectivement... Voilà, on est tous empathiques.
Et à l'adolescence, ils la perdent, enfin, envers leurs parents en tout cas.
Oui, c'est ça, ils sont très empathiques avec leurs copains et beaucoup moins avec leurs parents.
Alors justement, pour aller un peu plus loin encore sur ce qui se passe quand jaillit l'empathie en nous, dans notre cerveau, on va prendre en ligne Lucie Rose, qui est neuropsychologue. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Vous confirmez que l'empathie se met en place très tôt, chez les bébés notamment?
Alors oui, alors on peut effectivement dire que les premières pierres de ce système qui est finalement assez complexe, l'empathie se pose dès la toute petite enfance. Et quand on regarde des travaux avec des bébés de moins d'un an, comme on vient de l'entendre, et même autour de 8 mois, on voit qu'en fait, quand on les place dans des situations où ils entendent pleurer un autre bébé, soit avec un enregistrement, soit face à un bébé qui pleure vraiment, alors ils vont montrer des réactions qu'on va qualifier d'empathie. À quoi ça ressemble exactement? On voit que dans un premier temps, l'expression sur leur visage et leur posture vont changer, ce qui marque un changement affectif. Donc ça, c'est vraiment ce processus de partage d'expérience, on va l'appeler l'empathie affective. C'est une première facette de l'empathie. Et en plus de ça, donc les bébés, ils vont montrer des comportements visuels. Ils vont regarder de manière appuyée le bébé qui pleure. Et après, ils vont chercher du regard le parent de l'enfant et ensuite regarder leurs propres parents. Donc ça témoigne vraiment d'un effort de compréhension de la situation. Donc ça, c'est un processus qui va ensuite se complexifier au cours de la petite enfance, de l'enfance, parce qu'il va se nourrir en fait de notre capacité à comprendre les émotions et les pensées d'autrui, mais sans pour autant les ressentir directement nous-mêmes.
Lucie Rose,
c'est ça qu'on appelle l'empathie cognitive.
Vous,
et ensuite, effectivement, la réponse d'aller vers l'autre, elle apparaît un peu plus tardivement. On va voir qu'ils sont capables d'apporter de l'aide, du réconfort, de partager, quand on leur donne suffisamment d'indices, et ensuite de moins en moins d'indices, et en grandissant, voilà, ils vont pouvoir apporter une réponse comportementale qu'on va dire adéquate.
Lucie Rose, vous m'entendez? Excusez-moi.
Oui.
Vous êtes neuropsychologue, donc a priori le cerveau c'est quelque chose que vous connaissez bien. Est-ce qu'on a trouvé l'endroit où ça se passe justement? Parce qu'on sait bien qu'après il y a des gens, je parle à l'âge adulte, hein, qui sont plus ou moins empathiques. Est-ce qu'on sait s'il y a une zone dans le cerveau en particulier qui régit ça et qui est peut-être plus développée ou qui se stimule davantage chez certains ou chez d'autres?
Alors la question de la cartographie de l'empathie dans le cerveau, c'est une question qui a fait l'objet de beaucoup de recherches depuis les années 90. Classiquement, on utilise des techniques de neuroimagerie fonctionnelle. Donc pendant qu'une personne passe dans l'IRM, elle va regarder des images de personnes qui font une expérience émotionnelle. Par exemple, de douleur, on a l'impression que leur main est prise dans le capot d'une voiture. C'est pas très sympa. Mais c'est ce qui va nous permettre de voir quelles zones sont activées dans le partage d'expérience avec la personne sur l'image. Et ensuite, on va leur demander de prendre la perspective de cette personne pour imaginer comment elle se sent. Donc là, on va regarder l'empathie affective, puis l'empathie cognitive. Et on va regarder quelles aires du cerveau s'activent. Alors, ce qu'on retrouve, c'est qu'il n'y a pas une zone de l'empathie dans le cerveau, mais plutôt que les processus empathiques vont recruter des zones et des réseaux différents, en fait, selon qu'il s'agit de la sous-composante affective ou cognitive. Et en fait, pour la partie affective, on retrouve généralement en fait, que les zones qui sont activées sont similaires à celles en fait, ils sont activés quand nous-mêmes, on fait l'expérience, cette expérience-là. Donc, c'est cette idée de résonance neuronale.
Oui.
Donc, si je vois une image d'une personne qui a la main coincée, on va retrouver une activation des zones sensorimotrices, mais aussi de ce qu'on appelle l'insula et le cortex singulaire antérieur qui participent à l'évaluation et la régulation émotionnelle.
Eh ben, merci beaucoup, Lucie, d'avoir répondu à nos questions. Je reviens à vous, Isabelle, parce que tout à l'heure, on parlait vraiment avec Yvan de votre histoire hein, particulière, de votre enfance passée dans un hôpital psychiatrique. Est-ce que des enfants qui grandiraient dans un environnement comme celui-ci, avec des gens, entre guillemets, différents, malades, est-ce qu'ils deviendraient davantage tolérants, empathique? Est-ce que c'est comme si on pouvait modeler la personnalité de l'enfant à la compassion?
Ça dépend, en fait, ça dépend de l'environnement. Comme le disait très justement Yvan, l'enfant, lui, il voit pas quelque chose d'anormal, il comprend pas le normal et le pathologique. Il voit des individus, il va ressentir, ça faut comprendre que l'empathie, c'est dans le corps, hein, c'est pas dans la tête. C'est vraiment l'antenne corporelle qui... Et après, on va le décrypter de façon cognitive, comme on disait, mais donc l'enfant, il va naturellement être attiré vers certains en fonction de son degré d'empathie, et peut-être que de voir des situations de souffrance, ça va faire grandir son empathie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y en a qui, au contraire, vont se mettre dans un mécanisme de défense où ils vont se couper de leur ressenti émotionnel pour ne pas trop souffrir. Donc, en fait, on ne peut pas généraliser sur le fait que vivre dans un environnement très singulier comme celui où a été Yvan, ça développe automatiquement de l'empathie. Ça en a développé chez Yvan, mais peut-être pas chez tous.
Ce n'était pas obligatoire. Yvan, justement, vous, effectivement, vous étiez enfant, je ne sais pas, vous aviez quel âge précisément quand vous êtes arrivé dans l'hôpital?
Entre 3 et 10 ans.
C'est ça. Et donc, pour vous, ça vous paraissait, j'imagine, normal. Mais par contre, les habitants du village à côté de l'hôpital, ils pensaient que vous faisiez partie des fous, en fait, c'est ça. Mais ça ne vous dérangeait pas? Vous ne le voyez pas, ce regard-là des habitants?
Alors, si, déjà, il faut que je précise que j'étais dans l'hôpital parce que mon père était psychiatre et qu'on vivait dans l'enceinte de l'hôpital. Et ça répond un peu à la question que vous posez, c'est-à-dire qu'au début, quand on arrive dans l'hôpital, alors peut-être que ça s'est développé plus vers 4-5 ans, ce qui me concerne, j'imagine, en fait, on voit bien qu'on fait partie des soignants et qu'il y a des soignés. Mmh. Donc on voit bien qu'il y a une différence et que la ligne de démarcation, elle est peut-être là. Mais assez rapidement, quand on va à l'école du village et que les gens vous disent « tu viens de Perreux », donc ça s'appelait Perreux, un peu comme ici, on dirait à quelqu'un « retourne à Sainte-Anne, tu viens de Sainte-Anne », eh bien, en fait, on comprend intuitivement, parce que je pense que l'enfant conceptualise beaucoup moins que les adultes, on comprend intuitivement que ça exerce un peu une fascination négative, l'hôpital. Mmh. Donc les gens ont peur, c'est pour ça qu'ils disent ça. On est un peu blessé, mais au bout d'un moment, la frontière va se modifier. En fait, la frontière n'est plus entre les malades et les gens normaux dans l'hôpital, elle est entre ceux qui sont peureux, quels qu'ils soient, et les autres. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça fabrique quelque part quelque chose d'identitaire. On vient de là, en fait. Mmh. Et donc, on fait partie de cet environnement.
Alors, bah, écoutez, merci à tous les deux. On va être de retour avec vous dans quelques minutes. À quoi sert l'empathie? Peut-on évoluer une fois adulte et travailler justement à s'ouvrir peut-être davantage aux émotions, aux souffrances des autres, y compris dans le monde du travail? On vous en dit plus dans un instant sur Europe 1.